Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Rochefort-en-Terre, c'est un petit village breton entre Vannes et Redon, à une grosse demi-heure de la mer. Le genre concourt village fleuri, avec ses bacs à géranium, ses vieilles bâtisses en pierre, son église du XIIe siècle et les clientes de l'épicerie qui s'arrêtent pour papoter et s'extasier sur la glycine. Comme ça, de loin, on dirait un dessin de Sempé, inoffensif et pittoresque. D'ailleurs, il est tellement joli qu'il est déjà passé souvent à la télé. Mais si on regarde de plus près, évidemment, c'est plus compliqué. Parce que dans ce village, il y a un homme, un Italien, arrivé là par hasard il y a 9 ans. Il n'a pas dit d'où il venait, quel était son passé, ni même exactement comment il s'appelait, mais on ne lui a rien demandé et il est devenu Vincent, le voisin, l'ami, le gars qui donne un coup de main. Et puis l'année dernière, en août 2019, la police a débarqué et elle lui a mis les menottes au poignet. Tout à coup, une autre histoire a ressurgi, qui n'avait rien à voir avec les bacs à fleurs et les glycines. Une histoire de dévastation et de pillage, dont tout le monde se souvient. C'était à Gênes, en Italie, en juillet 2001, pour le sommet du G8. Près de 300 000 personnes s'étaient déplacées pour contester la mondialisation et la financiarisation des échanges. Le slogan « Vous êtes 8, nous sommes 6 milliards ». Après le G8 de Seattle en 1999, où l'ampleur de la protestation avait réussi à faire capoter les négociations commerciales, les militants de Gênes prônent la diversité des tactiques. Défilés classiques, actions non violentes, mais aussi black bloc. 3 jours de tensions, d'émeutes et de face-à-face avec la police italienne qui frappe très fort et dérape même carrément. Il y a un mort, Carlo Giuliani, 23 ans, tué d'une balle dans la tête par un carabinier, 600 manifestants blessés, près de 200 voitures brûlées, des dizaines de banques, de stations essence, d'agences immobilières détruites. Et au milieu du chaos, il y a Vincent. Vincent de Rochefort-en-Terre. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, c'est le comité Vincenzo Vecchi, l'histoire du village préféré des Français, Rochefort-en-Terre divisé, Rochefort-en-Terre mobilisé, ami si tu tombes, qui sortira de l'ombre à ta place? Jusqu'à 14h, au micro d'Adila Benedjaizou.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'office du tourisme est ouvert l'après-midi.
Ah d'accord, mais en fait, moi je viens pas à l'office du tourisme, je viens parce que j'ai entendu parler de l'histoire de Vincenzo Vecchi.
Bon, allez, rideau.
Ah bon ?
Faut le renvoyer, non.
Ah, faut le renvoyer, vous pensez ?
Non, mais c'est un mec qui a fait des conneries là-bas en Italie. Vous avez vu l'affiche, il a habité dans cette maison-là.
D'accord.
Mais c'était un violent. Ça doit être marqué peut-être sur l'affiche. Mais...
Bah non, c'est écrit libéré.
Oui, mais ils ont fait ça parce que c'est pour le préserver. Il est en France. Il est à la prison de je sais pas où il est. Mais attends. Parce que c'est toujours des on dit.
Bah oui.
Et puis ça brode, ça, nana, ça brode, ça débrode, gna. Et puis il y en a qui le connaissent et puis qui le soutiennent.
Mais vous pensez qu'il faut le renvoyer en Italie?
Là où il a fait ses conneries. Est-ce qu'il va remettre les fleurs? Là, la glycine,
ouais.
Elle est bicentenaire. Hein. Il y avait des fleurs comme ça, tout violet. C'était beau.
C'est vrai que c'est joli, Rochefort-en-Terre. D'ailleurs, en 2016, ce petit bourg de 600 habitants a été élu village préféré des Français par France 2 et Stéphane Bern.
J'ai dansé avec Stéphane Bern. Puis j'ai dit, oh Stéphane, je pensais que vous étiez coincé du bonnet. Il a raconté des histoires, mais on a déconné.
Mais l'ambiance a bien changé depuis que l'un de ses habitants, Vincenzo Vecchi, a été arrêté pour être extradé en Italie. Vincent, comme on l'appelle ici, est arrivé il y a 8 ans à l'occasion du festival de la chorale de Rochefort-en-Terre. Et le coin lui a tellement plu qu'il n'est jamais reparti. Il gagnait sa vie en faisant des chantiers chez les uns et les autres, et tout le village l'avait adopté. Alors tout Rochefort s'est demandé quel crime il avait bien pu commettre en Italie pour que la police vienne le chercher jusque dans le Morbihan. Pourquoi est-ce que Vincenzo Vecchi était chez vous ce jour-là ?
Il était venu m'aider à faire de la peinture. Il était en train de me décaper une pièce là-haut, et moi j'étais en bas en train de peindre. Et j'ai vu arriver un fourgon blanc qui s'égarait juste à 10 mètres là de la maison. Et il en est sorti un gars. Alors c'était un fourgon banalisé, le gars était assez banalisé aussi, hein. Il était habillé normalement. Et il s'est mis à crier immédiatement « Police, combien vous êtes ?» Et j'ai vu arriver d'autres types là. Alors il y a eu 5 voitures qui se sont garées là. Ils arrivaient par derrière la maison, par le côté. Bon, et il faisait beau, tout était ouvert. Les fenêtres, les portes, tout était ouvert sur le côté, derrière, devant. Et à un moment, il y en a un qui a entendu dans la pièce là-haut la ponceuse, en fait. Et il a crié « Il est là-haut !» Donc à ce moment-là, il y a eu un mouvement de plusieurs. Là, ils ont pris l'escalier.
Cet escalier qui est là, là ?
Cet escalier-là, oui. Ils sont embarqués, là, tous, à 4 ou 5. Et donc, j'ai attendu un petit peu, puis je suis montée. C'était pas possible que je reste là. Et je suis arrivée là-haut, j'ai ouvert la porte, et là, c'était très dur. Ils étaient 4-5 autour de lui. Il était menotté. Alors bon, j'ai fait, mais Vincent, mais t'as des menottes, t'es menotté. Et puis il m'a dit oui. Il m'a dit oui, il m'a souri. Alors on s'est souri. Et là, j'ai vu, ils avaient mis sur la table, de façon à ce que je le vois, une feuille comme ça, sur laquelle il y avait des portraits robots, il y avait des photos aussi, approchantes, et une où c'était lui, en haut à droite. Et il y avait écrit en haut, mandat d'arrêt européen, Vincenzo Vecchi. Bon, alors, moi, pour moi, c'est Vincent, son nom de famille, je connais pas. Comme la plupart des gens ici, moi, je sais pas. Et la juge, en sortant, m'a dit « On l'incarcère à faisant le coquet pour des actes très anciens. Vous ne savez pas, madame, ce qu'il a fait, comme si c'était un grand criminel, quoi. Voilà, tout un sous-entendu. Il a fait des horreurs, vous ignorez tout. » Voilà, donc avec Vincent, on s'est dit au revoir. On s'est embrassés. Et puis je lui ai dit « Vincent, ça va pas durer. » Et il m'a dit si.
Alors moi, on m'appelle Pépino, ici. J'étais en train de travailler. Et voilà, il y a une amie qui m'a appelé en me disant que Vincent avait été arrêté. De là, on s'est retrouvés à 2 ou 3, abasourdi, à se demander pourquoi, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Vraiment, je voyais pas, parce que depuis 8 ans, il était ici. Je l'ai jamais vu faire quoi que ce soit qui soit répréhensible. Puis je le vois mal aussi faire quelque chose. Donc, c'est vrai que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose en Italie, quoi, pour que... Comme on n'a jamais posé de question pourquoi il était ici, je veux dire, c'est... Je pose des questions si les gens abordent un sujet de leur vie. Mais s'ils ne l'abordent pas, ce n'est pas à moi d'aller le chercher. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas, quoi. On a abordé plein de sujets sur sa vie, quoi. Son enfance, ses parents. Alors on a toujours une tendance à projeter. Parce qu'on projette toujours par rapport à sa propre histoire qu'en fait il était arrivé ici sur une déception amoureuse. Qui voulait pas en parler, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais été posé la question. Le souvenir que j'ai, c'est le sentiment un peu comme la perte de quelqu'un. C'est-à-dire que on vous enlève une partie de vous, quoi. Un ami qu'on a depuis 8 ans, ça fait partie de vous, quoi. Donc il y avait une tristesse mélangée d'une colère. Et donc, le lendemain midi, je dis, moi, je suis partant pour qu'on fasse un comité. On a commencé à lancer les appels, et le soir, je me souviens très bien, quoi, tout le monde est arrivé complètement abasourdi, en colère. Et là, à ce moment-là, on ne savait pas encore vraiment qu'est-ce qu'on lui reprochait, Donc c'était assez particulier, quoi. C'est un moment inoubliable, quoi. Très très fort, quoi. Au-delà, on va dire, de solidarité, la grosse majorité, quasiment la totalité des gens qui étaient là, ils étaient là effectivement par rapport au lien que Vincenzo avait créé avec ces personnes, quoi. Il est très, très partageur, il est très respectueux, il s'intéresse aux gens. Il est, même si des fois ça peut être un peu énervant, il a un côté fataliste et donc il accepte les gens comme ils sont, quoi. Il n'a pas de jugement.
Très vite, le comité de soutien de Vincenzo apprend qu'il est accusé d'avoir participé au contre-sommet du G8 de Gênes en 2001. Il a été condamné à 12 ans de prison pour dévastation et pillage. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends dévastation et pillage, j'imagine immédiatement des soldats à cheval, des maisons qui brûlent et des enfants qui pleurent. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé à Gênes. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels pendant les manifestations contre le G8, essentiellement des voitures et des commerces brûlés. Mais c'était dans des zones de la ville qui avaient été évacuées et blindées plusieurs jours auparavant en prévision du contre-sommet.
Moi, je m'appelle Gaëlle. Donc je sais que les copains, très rapidement, le 10 août, lancent cette invitation à venir se rejoindre pour constituer le comité. Moi, j'ai ma casquette maman, parce que mon petit garçon, son anniversaire, c'est le 10 août. J'ai pas fait la première réunion, mais la deuxième. Et là, t'as un sens commun de dire, bon, on a un copain qui est dans la galère. Et ben, quand les bras nous en tombent ici, le premier réflexe, c'est de remonter les manches. On a tous des rôles mouvants. Et des fonctions mouvantes. Donc certains ont déjà parlé à la presse, donc on constitue le groupe presse. D'autres qui sont plus, par exemple, dans le collectage, vont assez rapidement justement commencer à collecter tout ce qui est les faits, les événements, les articles sur Gênes, les analyses sociologiques, etc. Donc d'essayer de se remettre un peu dans cette histoire-là. On a la partie aussi de ceux qui sont plus créatifs, qui assez rapidement disent « il faut des banderoles ». Il y a eu moult, donc le groupe qui se constitue plus en lien avec les avocats pour faire les allers-retours, justement essayer de comprendre un peu cette affaire, comment on peut y contribuer, etc. Voilà, des gens par exemple très cultivés, qui peuvent avoir un langage soutenu, d'autres qui vont avoir plus d'invention, mais peut-être pas la maîtrise de la didactique. Et donc tout ça, ça fait que ça se mélange, ça s'apprend des choses. On avait une base et on est monté en compétences collectives. Et on s'est dit, il faudra certainement de l'argent. Donc, à la fois ici, nous, ça part sur une caisse de soutien qu'on décide de mettre de façon permanente au café. Et pour plein de gens, c'est comment on peut faire. Donc, ça va de la brasserie qui organise tous les ans sa fête de la brasserie, qui décide de faire le brassin pour Vincenzo cette année. Un brassin, c'est qui prépare une bière spéciale. Donc, ils embouteillent un nombre de bouteilles données et le bénéfice de ces bouteilles est constamment donné chaque année à une association différente. Donc là, vu l'urgence de la situation, la brasserie décide que cette année, ça ira au comité de soutien et il l'appelle la sans gêne, à boire à l'ombre. En tout cas, on a réussi à couvrir jusque-là les frais d'avocat. Donc oui, on peut compter, je pense, au moins 20 000 euros, quoi.
Est-ce que votre vie, elle a beaucoup changé pendant cette période de mobilisation ?
Il y a eu une belle accélération collective, oui. Moi, je sais qu'à un moment donné, en comité, j'ai eu ce symbole où je l'ai ressorti en disant « j'ai vraiment cette impression d'avoir bondi du canapé ». Il y a plein de choses dans la vie où ça nous paraît injuste, on se sent impuissant, ça paraît loin. Et là, ils sont venus chercher un copain. Un copain, c'est la première sphère, c'est la sphère palpable. Et au travers de cette histoire, je ne me rasserrai plus sur le canapé.
Bien sûr, il est très difficile de savoir exactement ce que Vincenzo Vecchi a fait à Gênes. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il a été condamné parce qu'on le voit sur des vidéos tournées pendant le contre-sommet. En Italie, la loi permet de condamner sans preuve une personne sur le simple motif qu'elle était présente lors d'une manifestation.
Alors moi, c'est Jean-Pierre. Et je suis un ami, un voisin de Vincenzo. On n'avait pas vraiment d'interlocuteur dans l'histoire, parce que le mandat d'arrêt européen, c'est vraiment une démarche administrative. En fait, c'est un nouveau système en Europe. Avant, il s'agissait d'extradition. Lors d'une extradition, on pouvait pointer le caractère politique de l'affaire, la défense avait moyen de se défendre plus facilement, en tout cas sur un aspect purement politique. Là, le mandat d'arrêt européen, c'est juste, disons, une facilitation administrative pour fluidifier la circulation des bandits, des truands, d'un pays à l'autre de l'Europe. Nous, on est dans un cas qui nous semble très politique, c'est une participation à une manifestation. Et donc, ça ne nous paraît pas si simple. C'est plus que administratif. Là, il y a une vraie... Par exemple, quand on lit la loi cadre autour du mandat d'arrêt européen, il est dit que les sentences doivent être à peu près équitables d'un pays à l'autre. Et là, ça ne l'était pas du tout. Enfin, on voit des points faibles à ces mandats d'arrêt européens. On voit des points faibles à l'accusation. Et tout de suite, nous, c'est ce qu'on a pointé. Bah, pour faire en sorte que notre pote ne soit pas expédié en Italie et puis qu'on assure sa défense. Puis qu'on fasse en sorte qu'il puisse s'en sortir. C'est tellement disproportionné, 12 ans pour une manif, que je crois que ça a permis de nous mobiliser en fait beaucoup, parce que en plus il se trouve qu'on est peut-être un certain nombre à avoir manifesté, je sais pas, Notre-Dame-des-Landes, certains sont gilets jaunes, voilà, certains sont militants d'entre nous, mais ça a parlé à tout le monde, ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Vu qu'il n'avait pas de lien direct avec ses avocats en Italie, ben nous, on a fait ce travail-là. On a beaucoup travaillé à chercher les contacts des avocats italiens, à échanger avec eux, et à obtenir ces pièces qu'on a découvertes petit à petit, qu'il y avait une cassation sur Gênes, et qu'il avait été prouvé qu'il n'y avait pas de cocktail Molotov et d'armes, de transport d'armes. Ça n'a jamais existé. Les seuls Molotov qui sont arrivés à Gênes, c'est la police qui les a amenés dans l'école Diaz. Vincent n'a jamais eu d'armes, n'a jamais transporté d'armes. Toutes les informations dont je vous parle, c'est le comité de soutien qui les a déposées devant la cour. Et la cour a mis un certain temps à les valider.
Et du coup, qu'est-ce qui a été décidé ?
Eh bien, la toute dernière audience avant la cassation, Milan n'a aucune raison d'exister, donc il n'existe pas, le mandat d'arrêt est cassé. Et Gênes, le mandat d'arrêt est cassé, car incomplet et mal renseigné. Il y a eu donc l'audience le 14 octobre, il me semble. Le 15 octobre, eh ben, il y a le rendu de l'audience de la veille. Donc on retourne tous à Rennes, on était à Rennes le 14, on y retourne tous le 15, on était peut-être 120, 150. Donc certains d'entre nous sont rentrés, et au bout de 5 minutes, on les a vus sortir avec un grand sourire, donc on a vite compris. Et puis là, on s'est tous rendus devant la prison pour attendre la sortie de Vincenzo, parce que on attendait ce moment-là depuis longtemps, et puis c'était plein d'émotions, enfin voilà. On a dû arriver vers 11h du matin, il est sorti à 15h, un truc comme ça. Et puis on a pique-niqué sur place du coup, et puis ça a été très sympa. On l'a tous embrassé, enfin, peut-être pas les 120, mais presque. Voilà, c'était un moment très très chaleureux et puis qui a fait du bien à tout le monde.
Et là je sors au comité d'accueil, etc. etc. Je vous souhaite. Surtout, avant j'étais quelqu'un qui faisait tout le possible pour passer inaperçu, pour être pas trop embêté par des questions, etc. etc. Et là, je sors, je suis au centre de l'attention, les gens, ils me fêtent et tout ça. Bah, c'était fort, quoi.
Vous ont chanté quelque chose ou pas ?
Ils ont chanté, oui, oui.
Ah oui ?
Ah bah oui. Mais ils chantent toujours. Je pense qu'ils chantaient des chansons traditionnelles bretonnes, des trucs comme ça. Il y avait des gens qui dansaient des balles traditionnelles, des trucs comme ça, oui.
Devant la prison ?
Ouais, devant la prison.
Comment vous vous appelez ?
Vincenzo Vecchi.
Et vous vous êtes toujours appelé comme ça ?
Disons que les gens par ici m'appellent Vincent, mais je m'appelle, on fait Vincenzo Vecchi. Personne ne m'a jamais demandé mon nom de famille. Du coup, moi, je ne me voyais pas forcément obligé à dire comment je m'appelais. Parce que j'étais en clandestinité, parce que j'avais de la prison à faire. Moi, j'étais condamné suite à une grosse manifestation qui a eu à Gênes en 2001. Donc, moi, la manif pour laquelle j'étais arrêté, c'était le 20 juillet. J'étais là depuis le 19, je pense. Les journées avant, il y avait des forums, des réunions. Il se passait plein de choses un peu partout dans la ville. Après, on parle d'une manifestation, mais il faut quand même avoir bien présent qu'il y avait un monde fou. Il y avait 250 000 personnes, disons. Donc, c'est impossible de penser qu'il y avait un cortège bien ordonné dans une rue. La ville, elle était complètement prise par des manifestants, par les forces de l'ordre aussi. J'étais parti pour suivre un cortège, parmi les plusieurs cortèges. Et à bout d'un moment, je me suis perdu parce que c'était le chaos. Il y avait des fumigènes partout, il y avait les flics qui s'attaquaient un peu partout. Donc on s'était dispersé, on s'est regroupé ailleurs, puis on suivait d'autres cortèges. Et voilà. Ça a été une de mes plus belles journées de ma vie. en précisant que c'est pas parce qu'il y a eu toute cette violence déployée que c'est pas ça qui m'a fait jouir. Ce qui m'a fait jouir, c'était un peu la prise de conscience collective, disons, que malgré tout ce qui avait été déployé par les forces de l'ordre, la communication qui allait contre les manifestants et tout ça, les gens, ils ont dit, bah, en gros, on s'en fout, on veut y être, on veut participer, etc., etc. C'est un peu pour ça que j'ai un beau souvenir. Moi, j'étais arrêté en décembre 2002. Et donc, c'est un an et demi après. Ils sont arrivés dans la nuit. Ils ont défoncé la porte, ils sont venus, ils nous ont pris. Cette nuit-là, on a été arrêté en 25 personnes, en total, en Italie. Moi, j'ai été condamné en premier degré, en cour d'assises, j'ai été condamné à 10 ans. Puis, il y a eu l'appel, parce qu'on a fait recours en appel, et là, j'ai pris 13 ans. Disons que je m'attendais à quelque chose de gros, parce que Gênes a marqué un peu une espèce de tournant de page. Et donc, par conséquence, j'ai réalisé qu'il s'allait se passer quelque chose aussi à niveau tribunal, mais pas à 13 ans. Ça, c'était vraiment tirer un peu les gros lots et je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, moi, j'ai été condamné, comme les autres, sur un chef d'inculpation qui s'appelle dévastation et pillage. La traduction du mot, c'est ça. Ça n'existait pas en France. C'est un chef d'inculpation qui vient des années 20. C'est-à-dire que c'est un code pénal qui a été écrit pendant le fascisme, que ça n'a été jamais utilisé, jusqu'à Gênes. Et là, comme par magie, ils ont ressorti le code Rocco avec cette loi. Depuis le moment que j'ai été arrêté, j'étais pleinement conscient que j'étais en train de vivre un truc, que c'est pas une question de juste ou pas juste. Pour moi, une condamnation, là, c'était une condamnation tout court. L'effet de mettre en cause un ordre des choses.
Et comment vous avez pris la décision de partir? Parce que ce n'est pas une décision facile.
Je ne sais pas. Les jours vraiment que j'ai décidé, bon, je pars, je pense que ça n'a pas été vraiment les jours X ou Y. Ça a été une décision que j'ai toujours eu à côté. C'est-à-dire, bah, si je refuse de faire la prison, si je refuse un tribunal et tout ça, il faudrait quand même un peu conséquente en termes pratiques. Après, je ne veux pas dire que c'est un choix que j'ai pris à cœur léger. Hein. Bien sûr, on hésite parce que là, on sait que bon, on va quitter famille, on va quitter la gamine, on va quitter notre ami, on va quitter... Et après, si on regarde la chose sur une balance, bah, être en prison, je n'ai pas fait beaucoup de prison. Hein. J'ai juste un aperçu de la vie qui peut être en prison. De toute façon, je les aurais quittés.
Elle avait quel âge, votre petite fille, quand vous êtes partie?
Quand je suis parti, elle n'avait pas encore 3 ans, elle avait 2 ans et demi. Et c'est bizarre parce que quand j'étais parti, je n'avais jamais parlé avec ma fille parce que, évidemment, à cet âge-là, on n'a pas vraiment des discours cohérents. Même on n'a pas des discours. Je suis parti, elle dormait. Et donc, je lui ai dit au revoir, comme ça, de façon symbolique, disons. On s'est plus vu. Ouais. On s'est vu une fois. Quelques semaines avant qu'il m'arrête. Et justement, c'est là que je me suis aperçu qu'on avait encore un bon rapport et tout ça. Et elle a 10 ans, elle est née en 2009. C'est bien. C'est bien, mais c'est spécial. Il y a eu un arc de temps où on ne s'est pas connus. Et donc, je découvre ma fille, en fait.
Ça vous a pesé, la clandestinité?
Pour certains aspects, oui, parce qu'on a quand même toujours... Disons qu'on n'a pas vraiment les mêmes droits de vivre comme les autres, si on veut parler des droits administratifs, disons. Mais il y a toujours un peu la côté, ouais, ça, je ne peux pas le faire, je ne peux pas vraiment me lâcher avec les gens. On a quand même un rapport un peu spécial, un peu, bon, on est un peu des cachotiers. Et... Après, ça, c'est la côté un peu négative. Après, ben, j'ai trouvé quand même des côtés très, très positifs là-dedans. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir des papiers, de ne pas être enregistré par l'administration, ça donne quand même un aperçu de légèreté, dans le sens que l'État a beaucoup moins d'ingérence sur notre vie déjà. J'ai été arrêté 2 fois, mais c'était vraiment des contrôles très, très superficiels. Je n'ai pas mes papiers, je suis là, je suis en vacances, voilà.
Vous avez une compagne?
Oui.
Vous lui aviez dit?
Jamais. Non, jamais, elle n'était pas au courant de ça.
Et ça ne vous a pas fait souffrir, ça, de ne pas lui dire?
Pas vraiment souffrir parce que bah, y a toujours un côté un peu on cache des choses, c'est pas cool, mais j'ai toujours mis devant le fait que de toute façon je pouvais pas dire des trucs comme ça, pas seulement pour moi, mais aussi pour la sécurité des autres.
Et donc vous êtes envoyé en prison, et à partir de quand vous apprenez qu'il y a des gens à Rochefort qui vous soutiennent?
Je m'en doutais qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait bougé. Mais après l'ampleur qui a pris les comités, tout ça, je n'avais aucune idée. Moi, j'ai pensé vraiment que c'était vraiment une question bureaucratique, dans le sens, bah, dans ma tête, c'était tellement logique. J'ai 12 ans à faire, ils m'ont arrêté, je suis en prison, bah, c'est mort. Dans ma tête, j'étais déjà dans l'ordre, bon, bah là, bon, 12 ans, là, je vais en faire 10, je vais en faire 8, je vais déplacer d'abord à Rome, après ils vont m'envoyer, j'espère, à Milan. C'était parti comme ça pour moi. J'ai jamais cru à ce blocage des pratiques d'extradition. Je pense que beaucoup de monde avait de l'espoir, mais c'est parce qu'ils étaient pas dans mon situation, c'est-à-dire, bah tu vois, j'ai vécu un procès qui a duré 10 ans, où ça bougeait à rien, que dalle. La logique, c'était, bon, bah, la machine, là, elle s'est mise en route, ça va être comme ça, voilà. J'ai quand même réussi à faire une pause entre les deux, des 8 ans.
C'est quoi les perspectives aujourd'hui pour vous, Vincenzo?
Il n'y en a pas beaucoup, il y a deux possibilités. Scénario 1, là, je suis en tribunal à Angers. Le tribunal d'Angers, il casse les MAE de façon définitive. Et donc, l'État italien n'a plus le droit de venir me chercher ici. Scénario B, je retourne en prison parce que tout est confirmé. Je suis toujours presque à peu près au jour le jour parce que je ne peux pas faire de longs projets et tout ça. Parce que la partie est encore ouverte, hein, c'est pas rien encore décidé.
Soleil à la proposer une comité d'accueillir plus d'animation. Et donc, il y avait des flyers. Moi, j'ai ramené des trucs, vous verrez bien. Hein, de toute façon. On va pas y passer une plombe, hein, comme l'autre fois. Hein. On n'en discute pas trop. Hein. Et si on prend, on prend pas. Si on prend pas, on prend pas. Si on prend, on prend. Hein. Et chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en ai fait quelques exemplaires. Et puis, voilà.
Per le campagne, non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Io vado via. Amore, terra.
Les Sentinelles de Rochefort, le comité Vincenzo Vecchi, un reportage d'Adila Benedjaizou réalisé par Clémence Grosse, mixage Marie Le Peintre et Philippe Mercher. Merci à Mumu, Pépino, Gaël, Jean-Pierre, Vincenzo et Eric Vuillard. Notre attaché de production, c'est Mélissa Foust.
Senza speranza.